mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, et ce soir je suis avec Ludo, salut Ludo.
Bonsoir.
Et avec Christophe.
Bonsoir.
Et c'est Gilles au micro avec bien sûr Claude à la technique. Donc cette émission va être encore haut en couleur puisque nous allons réagir aux magnifiques propositions volontaristes de Monsieur Pierre Gattaz, donc patron du MEDEF, qui ne le sera peut-être plus dans quelques années, mais enfin on verra bien. Également de la souffrance au travail, de la fraude patronale, parce qu'on dit que les plus pauvres donc se font des fraudes aux prestations sociales. Mais il n'y a pas que, il y a effectivement les patrons, les politiques qui ont aussi des choses à se reprocher. On a vu avec
La France est un pays de fraudeurs.
La France est un pays de fraudeurs, voilà.
C'est ce qu'il faut retenir.
Exactement.
Enfin, selon TF1.
Tout à fait. On parlera également des intermittents du spectacle, puisqu'apparemment ils vont se retrouver dans la rue encore dans quelques semaines, enfin peut-être dans une petite semaine. Voilà, donc ça c'est pour le programme. À tout de suite. Alors, comme vous le savez bien, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, bien sûr, avec l'équipe de Mode d'Emploi. Comme vous le savez bien, vous avez certainement vu, lu, entendu ce que les propositions de M. Pierre Gattaz, donc patron du MEDEF, sur la possibilité d'avoir des actions un peu volontaristes au niveau du travail pour effectivement retrouver de l'emploi.
La formule exacte, nous n'avons pas tout essayé contre contre le chômage.
Voilà.
Pour la lutte contre le chômage.
Et le but du jeu, c'est quand même de faire un code du travail qui prendrait qu'une seule page. Évidemment, de détricoter le droit du travail, ça fait partie du plan, hein, du MEDEF. Également, de supprimer 2 jours fériés pour permettre effectivement une relance, je ne sais pas comment d'ailleurs, il faudrait voir les experts pour qu'ils nous en parlent un peu plus. En fait, toutes ces propositions, c'est des propositions de ultra-libérales, on peut dire que ça comme ça, donc qui allaient dans le sens de l'Europe avec le truc non faussé, là, comment on appelait ça, le terme exact.
La concurrence libre non faussée.
La concurrence libre non faussée, merci Ludo. Et donc ça quand même, c'est un peu surprenant. Alors évidemment, M. Valls a répliqué à M. Gattaz en disant qu'effectivement, dans son discours général, il a répliqué qu'effectivement, on ne toucherait pas ni au trottoir de 5 heures, ni au droit du travail, ni aux jours fériés. Mais quand même, l'idée a été lancée et ça fait polémique pour le coup.
On est quand même obligé de constater que plus ça va mal, effectivement, et plus plus on s'enfonce dans la crise, et plus tout ce qui est organisme de recherche, y compris l'OCDE d'ailleurs, finit par dénoncer l'austérité, la politique d'austérité imposée donc à l'Europe. Et quand je dis politique d'austérité, finalement, c'est une baisse des salaires. Bon, évidemment, le cas de l'Espagne ou de l'Italie et de la Grèce est le plus flagrant, mais c'est de fait hein, une politique néolibérale mise en application dans les pays qui ne tiennent pas leurs comptes publics proprement, n'est-ce pas, dans les pays du Club Med, qu'on aime tous en vacances d'ailleurs, hein, c'est pour ça que, n'est-ce pas. Et donc, effectivement, c'est là, on pourrait dire que c'est bien là qu'ont eu lieu les vraies réformes structurelles tant attendues par notre cher patronat, sauf que les résultats, eh bien, je crois, sans mentir, se font toujours attendre, notamment en termes de création d'emplois. Donc, on a toujours cette offensive ultra, enfin néolibéral, qui se passe toujours dans un contexte de blocage effectivement complet, mais dont le blocage lui-même ne viendrait pas forcément, n'est pas forcément là où on l'attend. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on a plus l'impression, grosso modo, que le problème vient quand même des politiques austéritaires, de la pression des marchés financiers sur la zone euro, et donc qu'il y a une espèce de cycle qui se met en place, qui conduit, donc qui est en train de conduire l'Europe à la déflation. Et je crois que l'OCDE s'en inquiète même. Et donc les réponses apportées sont toujours les mêmes, avec toujours ce discours, ça n'a pas marché avant, mais ça marchera maintenant. Et donc je le dis comme ça, hein, je n'ai pas vu, à ma connaissance, qu'une baisse des salaires réels, en l'occurrence, conduit à des créations d'emplois. Mais quand je dis baisse de salaire réel, c'est que les salaires réels des Français ont commencé à baisser en masse depuis la crise.
Parce qu'ils n'ont pas augmenté surtout, c'est pour ça qu'ils ont
baissé. Oui, tout à fait, ils finissent par baisser parce qu'ils n'augmentent pas, bien sûr. Mais c'est le cas aussi des, bon, des fonctionnaires, hein, bien sûr, mais c'est pas. Mais ou même qu'une politique d'ajustement structurel provoquait des créations d'emplois, par exemple, ou de réduction de coupe de la dépense publique provoquait des créations d'emplois. De suppression des fonctionnaires provoquer des créations d'emplois, par exemple. Hein, je sais, et donc, dans cette même ordre d'idée, eh ben, on attend effectivement que la suppression du SMIG provoque, crée des emplois, et puis on peut même se demander quels emplois en question. Voilà. Et donc voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une offensive parmi d'autres.
Des effets d'annonce principalement, quand même.
Oui, mais bon, ça met le gouvernement sous pression quand même. Hein. Ah, oui. Et puis ça nous annonce une prochaine campagne électorale qui sera quand même nettement à droite. Il y a des gens qui pensent Juppé, Sarkozy, Sarkozy, Juppé, c'est kiff-kiff. C'est pas vrai. Sarkozy risque de se déporter sur la droite pour encore plus sur la droite faire une campagne vraiment ultra droite pour déréglementer à nouveau le marché du travail. Et en l'occurrence, dans les propositions, par exemple. Il y a carrément le fait que l'État ne puisse plus fixer la durée légale du travail. C'est ce qui est prévu. Donc on ne parle pas d'abroger simplement les 35 heures, mais on parle simplement, c'est en fonction des besoins des entreprises, de revenir à des heures. Donc si la loi n'est plus en mesure de fixer la durée légale du travail, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être les négociations patronat-syndicat, ça va être par branche. Donc voilà, donc c'est toujours un peu la même antienne, travailler plus. Donc effectivement, supprimer les jours de congé, travailler plus, mais en ayant un salaire qui va baisser. Non, qui peut baisser. Dans le cas de la suppression du SMIC, c'est ça. Donc grosso modo, c'est travailler plus, voire travailler plus pour travailler moins. Et on a effectivement, alors la baisse des cotisations patronales, bon bah évidemment, on n'a pas de déficit, tout le monde le sait. Généraliser le contrat des chantiers à tous les secteurs. Ça, c'est la fin du CDI, puisque c'est un contrat de mission, je précise que le contrat de chantier est un contrat qui existe dans le BTP, qui est effectivement un CDI, mais par contre, le contrat s'arrête en quelque sorte. Enfin, le contrat ne s'arrête pas, si vous voulez, mais si, il s'arrête une fois que le projet est réalisé.
C'est ça, voilà.
Voilà. Donc, bon. Donc si alors est-ce qu'il y a une obligation légale après de rembaucher en cas de nouvelle mission? Bon, il suffit de pas trouver d'autres missions pour ne pas voilà. Donc ça c'est vrai, ça c'est la baisse du c'est la fin du CDI en quelque sorte. Hein. Assouplir les 35 heures, bon, en finir avec le principe d'une durée légale imposée à toutes les entreprises. D'accord. Alors je rappelle quand même que l'ANI a permis de larges entorses hein, aux 35 heures en fonction des négociations. Bon voilà, donc on est toujours dans ce principe. Alors et puis pareil, alors la suppression de 2 jours de congé, 1% de croissance, bah en fait je crois qu'on est tous habitués ici depuis le temps aux effets d'annonce mirobolants du patronat pour des résultats qui sont toujours des cacahuètes. Donc là en l'occurrence, Pierre Gattaz promet quand même 1 million d'emplois.
Il partait l'opinion, en tout cas, il partait l'opinion, 1 million d'emplois.
1 million d'emplois, 1% de croissance hein, quand on supprime 2 jours de congé. Bah, voyons, là, je crois que aucun économiste n'est d'accord.
On regrette presque, on va bientôt regretter Parizeau, finalement,
Oui, mais bon, oui, tout à fait. Mais, tu sais, la devise, c'est toujours plus loin. Parizeau en a rêvé, Pierre Gattaz voudrait le faire. Vous voyez, espérer le faire. Voilà, et alors, concernant la suppression du SMIC, le patronat espère créer de 50 000 à 100 000 emplois sur 5 ans, en dérogeant au SMIC pour certaines catégories de demandeurs d'emploi. Donc, je crois qu'il pense principalement au RSA, c'est-à-dire que une fois que vous êtes tombé dans une trappe à pauvreté, en quelque sorte, pour vous en sortir, il faut vous payer en dessous du SMIG. Cherchez à comprendre. Voilà. Et donc, évidemment, ça avait provoqué la colère des syndicats. Et elle consisterait notamment à instaurer un salaire transitoire. Transitoire. Notez bien le transitoire. Il faut espérer qu'une fois qu'on aura réussi à imposer une baisse du SMIG, on pourra revenir à la normale. Paraît-il. Pour les populations les plus éloignées de l'emploi, donc c'est pas ce que j'ai dit, le RSA, et qui pourrait être complété par des allocations sociales afin de garantir un pouvoir d'achat équivalent au SMIC. En résumé, c'est l'État qui va venir à la rescousse des employeurs et des salariés les plus éloignés du travail. Donc je résume la pensée. Hein. Ces gens qui sont RSA sont inemployables, parce qu'ils sont RSA, parce que sinon ils seraient employés de plus belle lurette. Ils ne valent rien sur le marché du travail. Ils ne sont pas productifs. On va les payer moins. Et l'État viendra contribuer au manque à gagner. ce qui d'ailleurs est déjà le cas du RSA. Voilà, mais en dehors de ça, il ne s'agit pas d'une remise en question du SMIG. Il ne s'agirait pas d'une remise en question il ne s'agit pas d'une aide déguisée accordée aux entreprises. Je vais pouvoir embaucher un RSA, c'était le payer la moitié, ça ne sera pas une aide accordée aux entreprises, une aide de l'État accordée aux entreprises.
Non mais moi j'ai juste une petite question hein, que je pose aussi évidemment à Christophe, c'est Pierre Gattaz a quand même apporté le PINS à 1 million d'emplois, on leur a quand même accordé, on leur a quand même donné, enfin l'État a donné aux entreprises des dizaines de milliards quand même, faut quand même le dire. Il a quand même été Valls a été applaudi par un parterre de patrons.
C'est cette année que ça pourrait faire hein, le CIC, ouais, ça pourrait faire voilà cette année.
Ils poussent à chaque fois plus loin le truc, c'est-à-dire qu'on leur donne ça, ils prennent tout le bras quoi.
Donc c'est l'échec de la gauche aussi, l'incapacité à construire une politique alternative.
Bien sûr. Christophe.
Non mais je voudrais rappeler quelques éléments historiques. Le premier élément, c'est que lorsque Pierre Mauroy a lancé la semaine de carateur, le patronat en général avait fait un scandale en disant que c'était la fin du monde, etc., que ça allait détruire la croissance, ça allait créer des...
À l'époque, on était à 48
heures, c'est ça. À l'époque, il n'y avait
pas de croissance. 48 et 45
heures. Ouais. Et on a recréé à un moment donné de la croissance avec les 40 heures, déjà d'une part. Deuxièmement, c'est de la pure provocation parce que à moins d'une implosion politique du Parti socialiste, personne ne va remettre en cause les 35 heures parce que le patronat, enfin le MEDEF, une des organisations patronales parmi d'autres, hein, il y a quand même la CGME,
CGPME,
etc. Remettre en cause les 35 heures, ça va embêter beaucoup de monde. Parce qu'en échange des 35 heures, il y a eu des allègements de charges fiscales.
Il faudrait les demander en retour quand on bourse les allègements de charges fiscales.
Donc déjà d'une part, et puis en échange, il y a eu quoi ? Il y a eu l'annualisation du temps de travail et les contrats courts et annualisés et les contrats à moins de 35 heures par semaine. C'est comme ça qu'aujourd'hui le patronat a été largement gagnant dans cette histoire. C'est comme ça que moi j'ai eu des CDI de 7 heures par semaine. Hein, grâce aux 35 heures. Donc c'est la précarisation, ça a été largement utilisé dans un ensemble de secteurs d'activité, faut pas l'oublier. Hein. Aujourd'hui, des emplois temps complet de boulangère ou de femme de ménage, c'est terminé. Hein. C'est souvent des contrats de 26 heures pour toucher un minimum les assédiques, etc.
C'est vraiment lié aux 35 heures, ces contrats de 26 heures?
Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est oui. Les 35 heures ont intégré la notion d'analysation du temps de travail, mais également le fait d'avoir des contrats à durée...
Très courte durée, quoi.
Très courte durée, et également...
Oui, c'est-à-dire que le patronat a gagné en flexibilité.
Flexibilité, oui. Il y a eu la flexibilité. Ouais. Alors, la CFDT a parlé de flexi-sécurité avec le parcours de formation, comme si en formant les gens, on allait leur donner du boulot. Mais aujourd'hui, c'est une organisation syndicale qui aujourd'hui est dans le grand écart parce que d'un côté, ils ont introduit, ça a quand même été le cinquième syndicat historiquement qui était pour cette flexibilité qui allait introduire de
la
fait
la sécurisation des parcours professionnels, oui, ça fait
en échange d'une prétendue sécurisation des parcours professionnels, sachant qu'historiquement, quand le patronat avait besoin de former les gens, ben il investissait. Hein. Hein, tous les techniciens sur les machines en Renault, à l'usine Boulogne-Billancourt, etc., on rentrait à Renault, on était formés. Enfin, faut pas l'oublier, ça, c'est un fait historique, parce qu'il y avait des parts de marché. Non, le gros problème, c'est que, mais alors ça, on va encore en discuter, c'est même pas un débat keynésien, c'est même pas un débat entre le rôle de l'État par rapport à l'économie. C'est qu'aujourd'hui, c'est clair, les gens ont perdu le pouvoir d'achat. Donc à partir du moment où vous êtes dans un système capitaliste de marché où vous faites rentrer de l'argent en faisant des ventes, si vous augmentez pas les salaires des gens, ça peut pas marcher. Donc l'histoire de la
croissance... Ils ne peuvent pas acheter.
Et alors il y a un énorme mensonge qu'on oublie dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui 74% des biens et des produits manufacturés sont produits en France. C'est logique, hein, les marchés, les légumes, tout ça. La fameuse mondialisation, elle concerne 25%. On importe 25% de nos biens. Mais et sachant qu'on en exporte à peu près 13-14%, contrairement à l'Allemagne qui en exporte un peu plus. Mais voilà quoi, on est toujours dans la même problématique de où s'arrête le protectionnisme par rapport à des gens qui ont des salaires, des conditions sociales avec des régimes qui sont pas démocratiques, comme par exemple la Chine, où on paye des gens à 400 euros, où on pourrait prendre...
400 euros, c'est des riches, là.
Voilà, ouais. Ou 200 euros aux Philippines, ouais. Etc. Sachant que ça crée des dégradations, des déflagrations sociales assez conséquentes, hein, quand il y a une révolte en Birmanie, des petites ouvrières et des petits ouvriers qui font les polos H&M vendus 5 euros, ouais. C'est des morts qu'on compte. Hein.
Bien sûr.
Ça, faut pas l'oublier. Et deuxième point, effectivement, comme tu dis, c'est la stratégie du pire. On a obtenu ça. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les socialistes vont devoir se remettre en cause vis-à-vis du... C'est toujours le même problème. Hein. Parmi les sociodémocrates et différents courants du Parti socialiste, il y a ceux qui sont pour une économie de marché dérégulée, et il y a ceux qui sont pour l'intervention de l'État, avec la notion de protectionnisme derrière, pour les plus virulents.
Et le parapluie, quoi, le fameux parapluie.
Donc, ce débat n'est toujours pas tranché dans ce grand parti qui représente X courants, et là, ils vont être retrouvés devant une situation, parce que cette crise, elle est provoquée, elle est financière à la base de la crise. Hein. Si la BCE avait filé de l'argent au niveau des réserves,
ce qu'elle a fait finalement
sans le dire, on n'aurait jamais entendu parler de crise de croissance, de crise monétaire. Faut pas. Voilà.
C'est comme ça là, une remarque, mais faut pas exagérer. Je veux dire que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, alors je veux dire où on a pratiqué, où on a pu à la fois dévaluer et puis injecter des liquidités, donc ce qui était nécessaire. Hein,
oui, bien sûr.
Je veux dire. Même si ça a soulagé l'économie, ça n'a pas empêché et l'Angleterre et les États-Unis de rester dans une longue période de crise sans création d'emplois. Donc, notamment en Angleterre, c'était très violent. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la crise est réelle. Hein, sauf qu'effectivement, enfin. En Europe, la crise risque de durer beaucoup plus longtemps on est presque rentré dans un cycle récessif, quoi.
Ça fait 15 ans qu'on crée plus d'emplois en France. Ça fait 15 ans qu'on crée plus d'emplois. Il y a eu la période de 97-98 du fait de l'avènement des nouvelles technologies et l'explosion de la bulle spéculative, de la première explosion, parce qu'il y en a eu plusieurs, de la bulle spéculative Internet, la prétendue nouvelle économie. On se souvient tous de Vivendi. Vivendi Universal et des discours délirants de M. Jean-Marie Messier. Voilà, c'est du concret. Point bas.
Enfin, l'idée, quand même, c'est que si effectivement le patron dit qu'il faut essayer autre chose parce qu'on n'a pas essayé, il faut le tenter, moi je pourrais lui dire qu'effectivement, par rapport aux économistes atterrés, que la non-rigueur, ça n'a pas encore été essayé, il faudrait peut-être essayer la non-rigueur. La non-austérité, en fait. Hein, voilà, parce que. C'est vrai, c'est le mécanisme dont tu viens de parler, c'est la logique, quoi. Plus tu payes bien tes salariés, plus ils consomment, et plus ils consomment, plus les biens sont vendus, et plus tu peux mieux les payer encore. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Je vous propose d'écouter une petite chanson de Monsieur Erwan, ça s'appelle Le Recyclé. À tout à l'heure.
Le Recyclé. Après une nuit bien arrosée, un réveil en sous-marin, parce que ma vie tournait en rond, il fallait bien. Tu donnes un sens, une destinée. Tu bouges, je suis comme un hamster dans sa roue. Je me rends finir une fois pour de bon. Mais les programmeurs sont pas inspirés, ont pas d'imagination. Pitié, arrêtez de me s'emplir, on s'emplir, on s'emplir, on s'emplir, on s'emplir, on s'emplir, on s'emplir.
Et oui, vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, dans la mission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, je suis avec Ludo et Christophe au micro.
Bonsoir.
Avec Gilles également. Et puis Claude à la technique. On reprend cette émission pour bien sûr parler, il avait été dit qu'à la télé d'ailleurs, en parenthèse, qu'effectivement la fraude aux prestations sociales était à peu près de 3 milliards, Ludo, si je ne me trompe pas.
Je crois que c'est toi qui as les chiffres, non?
Bah, je ne les ai plus, mais en tout cas, je crois que c'était 3 milliards. Par contre, de l'autre côté de la barre, il y a les patrons et les grands de ce monde qui, eux, font effectivement des fraudes aussi. Christophe.
Alors oui, effectivement, la fraude patronale s'élève à plus de 20 milliards d'euros. Donc, c'est un article qui a été publié ce mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on en parle? On parle de fraude patronale, c'est le travail dissimulé, le travailleur détaché, les heures non déclarées. La fraude aux cotisations sociales des patrons français explose et représente un manque à gagner de plus de 20 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Alors, la fraude avait atteint entre 16 et 20 milliards d'euros en 2012, élargie à l'assurance chômage et aux retraites complémentaires obligatoires. L'estimation grimpe dans une fourchette entre 20 milliards et 25 milliards, ce qui représente 5% au total des cotisations et contributions sociales. Il faut savoir que la fraude a doublé depuis 2007. Mais pourquoi donc? Alors, dans ce rapport, hein, parce que c'est quand même la Cour des comptes, c'est sérieux, celle-ci pointe l'importance du travail dissimulé ou travail au noir. Les secteurs de la construction et du commerce, tiens, occupent la tête du peloton des fraudeurs avec respectivement 3,8 et 3,3 milliards de cotisations éludées. Le rapport pointe de nouvelles formes de fraude peut aider à combattre, entre autres, à la mondialisation des échanges. On pense, par exemple, à la technique du carrousel qui consiste à déclarer des produits français pour récupérer la TVA, par exemple. Il y a certaines filières criminelles très bien organisées qui utilisent cette technique-là, qui est très complexe à...
T'es vachement bien informé, hein.
Ouais.
On dirait presque que
t'as fait le rapport.
L'as pratiqué.
Ouais.
La Blanche Colombe.
Tu travailles à Cour des comptes, toi, je sais pas. C'est une nouvelle.
Alors.
Non, mais sur les techniques.
Voilà. Alors.
De mafieux.
Bien, merci. Après ces digressions, donc je poursuis. Bon, il s'avère que dans le cadre de la mondialisation des échanges, et puis du développement du marché unique européen, en fait, ce qui encourage cette fraude, c'est les niveaux de protection sociale et d'harmonisation fiscale qui sont très inégalitaires. Donc ça, c'est une véritable problématique de fond, puisque la fraude transactionnelle et la sous-traitance en cascade des transactions dématérialisées font que les circuits de financement occultes compliquent la tâche des agents chargés du contrôle des cotisations, explique l'institution. Alors, je reviendrai sur ce point ensuite, sur ce point par la suite, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Parmi donc ces nouvelles formes de fraude, il y a la question des travailleurs détachés. On en a énormément parlé. Donc c'est polonais, c'est roumain, issus de la zone euro, qui ont les conditions salariales et les conditions sociales de leur pays, tout en travaillant en France et en ne bénéficiant pas du don donc du salaire minimum.
Alors
garanti.
Si je peux me permettre, ouais. Tu fais une petite confusion, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Non, les travailleurs détachés ont, justement suite. Tous les débats sur la directive Bolkestein, les travailleurs détachés bénéficient du salaire minimum français, mais par contre sont exemptés de cotisations sociales françaises, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'ils payent leur niveau de protection sociale
dans leur
pays
d'origine.
Et donc, effectivement, c'est un dumping social déguisé, puisqu'ils encouragent les employeurs.
Alors, la Cour des comptes, par rapport à ça, indique que les entreprises usent et abusent de ces travailleurs étrangers afin de payer des cotisations moins élevées. Les chiffres sont éloquents. Il y avait 210 000 travailleurs détachés en France en 2013, 170 000 en 2012, contre 7 500 en 2000. Le rapport pointe également l'abus des patrons qui forcent leurs employés à passer au statut de travailleur indépendant plutôt que des salariés. Donc ça, c'est la conséquence perverse du statut d'auto-entrepreneur.
Et je rappelle que dans le droit du travail, c'est un abus. Enfin, c'est une une fraude au sens où c'est un travail déguisé au sens où doit être un salarié est considéré comme un salarié quelqu'un. Qui est subordonné hiérarchiquement à quelqu'un et qui en plus travaille effectivement toujours pour la même entreprise. D'où l'abus caractérisé du statut d'auto-entrepreneur. En résumé, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, évidemment si le chômage n'était pas si important, qui pourraient parfaitement aller devant les prudhommes pour faire requalifier leur statut en salarié, en
tout
CDI.
À fait. Alors, la Cour des comptes sur ce point pointe le manque criant d'inspecteurs de l'URSSAF. Ce sont les gens chargés de contrôler tout ce qui est versement des cotisations, puisque cette fraude qui reste difficile à détecter et à réprimer, le taux de recouvrement est, à votre avis, au niveau des fraudes, est de combien ?
D'1,5%,
même pas 2%. Alors, hors retraite complémentaire et chômage, la Cour donc appelle à un renforcement des moyens d'investigation, regrettant qu'il n'y ait pas l'équivalent de la police fiscale dans ce domaine. Elle appelle aussi une augmentation de la majoration des redressements en cas de constat de travail dissimulé qui est actuellement de 25%, ce qui est ridicule. 25% pour 10 heures dissimulées, c'est sur l'auto-horaire du SMIC, c'est quelques zéros d'amende. C'est tout. Donc, tout ça pour rappeler quelques faits historiques. Et là, je fais une digression mais qui est très intéressante, de mon point de vue. Le premier élément, c'est que c'est monsieur...
C'est vrai que c'est intéressant pour le coup.
C'est monsieur Sarkozy qui, dans le cadre de réforme des structures juridiques...
On a dit qu'on parlait pas de campagne électorale.
Supprimer un certain nombre de pôles financiers en ce qui concerne les enquêtes au niveau de l'international. Mmh. Et c'est monsieur Sarkozy qui a fait en sorte que dans le principe de un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé, qui a donné si peu de moyens à l'URSSAF au niveau des, et aussi à l'inspection du travail.
Du travail, bien sûr.
Voilà.
Oui, bien
et
sûr.
Comme par hasard, ça coïncide avec l'explosion, historiquement et dans la concordance du temps, avec l'explosion de la fraude fiscale. hein, puisque ça a commencé
en 2007. Ceci dit, je crois que l'URSSAF est géré par l'UNEDIC. Hein. Alors oui, évidemment, ça, aujourd'hui, ouais. l'UNEDIC a un statut d'État, mais justement, il y a un problème à ce niveau-là. C'est les impôts ne collectent pas, enfin, les services de l'État ne collectent pas l'URSSAF. Hein.
Absolument. Alors, il y a un deuxième petit problème qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un petit pays à côté de nous, qu'ils appellent la Belgique.
Oui.
Qui
compte, très beau pays d'ailleurs.
Très beau pays.
De milliardaires. Très beau pays de milliardaires. Français.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Qui, ayant peu de moyens, a mis en place un logiciel commun de tous ses fichiers de contrôle de cotisation sociale et patronale. Ce qui fait que la fraude patronale est quasiment inexistante.
Oui, c'est un manque de volonté en fait.
Voilà, c'est-à-dire que quand Bercy est interrogé sur. Attendez, ils ont mis en place à l'échelle de la Belgique, c'est quand même un pays, c'est plusieurs millions d'habitants, un logiciel qui marche très bien. Oui. Pourquoi on le fait pas en France? On refuse de répondre. Alors, la fraude patronale mise en perspective, c'est quoi? C'est donc 20 à 25 milliards d'euros avec un taux de recouvrement de 1,5%. Ça permettrait de combler quoi? Ben, le déficit de la sécurité sociale, de dégager une marge jusqu'à 6 milliards d'euros par an. Je peux vous dire que 6 milliards d'euros par an sur la feuille de paye de toute une partie de la population, c'est pas rien. Hein.
C'est pas la feuille de paye, là, c'est la sécurité sociale, l'excédent de la sécurité sociale.
Voilà. En comparaison, la fraude aux prestations sociales tant dénoncée par d'autres partis politiques ne représente que 3 milliards d'euros par an. Argent en grande majorité récupéré puisque le taux de recouvrement est de 90%. Mais pourquoi donc?
Et tout compris, c'est-à-dire prestations familiales, allocations familiales, allocations logement, y compris du chômeur. Donc, qui représente 700-800 000 euros.
Qui, enfin, on passe pas. Alors il faut ajouter à ces 20 milliards d'euros moyens de fraude aux cotisations sociales et patronales, 50 milliards d'euros de fraude fiscale, ce qui fait qu'en France, on n'aurait plus du tout de déficit public si on était un petit peu plus soucieux du bien commun. En 2012, suite à l'augmentation, les recettes de l'impôt sur le revenu s'élèvent à 56 milliards d'euros. C'est pour vous mettre un peu les choses en perspective.
Voilà. Pardon, t'as dit quoi, ouais, 56 milliards
En 2012, suite à l'augmentation, les recettes de l'impôt sur le revenu s'élèvent à 56 milliards d'euros. Donc si on n'avait pas cette fraude aux cotisations patronales et sociales ainsi que fiscales, on se porterait beaucoup mieux, on ne parlerait plus de déficit en France.
Bah, ce qui est bien, c'est que c'est pas un sujet qui fait la une des journaux télévisés finalement en comparaison, ou même, enfin, qui provoque pas l'ire des hommes politiques français en comparaison de l'acharnement à la fraude des chômeurs ou aux chômeurs fraudeurs, aux arrêts maladie fraudeurs, etc., quoi, qui sont vraiment en comparaison du menu fretin. Alors, on pourrait dire c'est pas comparable, mais comme tu le rappelles, le taux de recouvrement est beaucoup plus important. En ce qui concerne les fraudeurs aux prestations sociales qu'aux entreprises. Donc, il y a deux poids, deux mesures dans cette situation-là.
On peut s'interroger sur le rôle des administrations par rapport à ça.
Tout à fait.
Et leur neutralité.
Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Moi, je vous propose un petit espace musical pour justement aller dans ton sens avec le sujet. C'est la mafia de Léo Ferré, bien sûr.
Sur l'affiche, à cocatrix.
Et oui, c'était donc la mafia de Léo Ferré, chantée par Erwan. Voilà, j'ai oublié le chanteur. Il faut quand même le nommer, car c'est important de nommer aussi les gens qui chantent, donc les intermittents du spectacle. On en parlera tout à l'heure. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi avec Ludo, Christophe et Gilles au micro et Claude à la technique bien sûr. Alors on va reprendre cette émission. Bon, juste une petite digression pour parler du sujet d'avant, c'est quand même que quand on parlait des fraudeurs, moi je considère que les chômeurs sont des poètes et que les fraudeurs en fait sont les patrons puisqu'on a eu une explication.
Des poètes.
Voilà, des poètes. C'est des poètes parce qu'ils changent du travail. En même temps, ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent chanter.
C'est des fils de Diogène.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc la démonstration que nous a fait Christophe, qui était une démonstration absolument admirable, quand même, faut le dire.
Il faut dire que comme il bosse à la Cour des comptes.
Voilà. C'est une petite blague en passant. Donc on va reprendre cette émission pour un sujet beaucoup plus grave, puisqu'effectivement, la précarité, Ludo, si mes souvenirs sont bons, n'a pas n'a pas diminué, elle a plutôt augmenté, donc elle a même explosé en 30 ans, c'est ça ?
Bah écoute, moi si je suis patron, je trouve pas que la précarité c'est un problème grave. Hein. Je crois que c'était Balladur qui avait dit ça. Non, on tourne autour du pot, on emploie des mots pudeurs. Non, il faut le dire, la flexibilité c'est bien. Je cite de mémoire, hein. Il avait dit la flexibilité c'est très très bien. Et donc, une étude de l'INSEE vient confirmer qu'effectivement, depuis 30 ans, donc la précarité à 30 ans, vous entendez de dire, et donc... Pour avant de lire ce qui suit, il faut effectivement remettre dans le contexte européen ou mondial, c'est que c'est effectivement un phénomène qui touche pas particulièrement la France en fait, et donc enfin qui a d'abord commencé par toucher les États-Unis, dont évidemment la législation du travail est quand même beaucoup plus
souple.
Enfin souple, c'est pas le mot exact, mais enfin beaucoup moins protectrice, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notamment donc aux États-Unis, on a vu apparaître toute une flopée dans les années 80 d'emplois de services précaires. Qui vont, bon, par exemple, je sais pas, de la femme de ménage à la vendeuse, hein, donc d'emplois peu qualifiés, donc qui étaient considérés comme peu, créateurs de richesse en quelque sorte, mais qui étaient quand même nécessaires. Et donc, ça s'est conduit quand même, une baisse de salaire de ces gens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup moins, je veux dire par là que le développement de ce type de contrat
a conduit
à écraser, en fait, la rémunération. Donc, c'est pour rebondir, en fait, sur le débat qu'on a eu sur la baisse du SMIC. Donc, c'est toujours l'éternel problème, c'est que ce type d'emploi, paraît-il, n'est pas créateur de richesse et donc il devrait être payé à une hypothétique à un niveau hypothétique, hein, voilà. Bon, il y a tout un débat là-dessus, bien sûr. Donc voilà. Et donc là, le développement de la précarité en France, donc on a quand même un recul, comme on le disait, de 30 ans. Donc l'INSEE a mis en place un indicateur de l'instabilité de l'emploi qui aurait presque quintuplé entre 1982 et 2011. Donc, et alors sous deux aspects, hein, c'est-à-dire qu'il y a un boom des contrats temporaires et donc en nombre et une réduction en fait du nombre de jours travaillés pour ces missions, des missions plus courtes. Donc depuis 30 ans, l'instabilité s'est propagée sur le marché du travail, piégeant une partie des salariés dans la trappe de l'emploi précaire. Et ça, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les jeunes qui commencent sur des emplois précaires risquent d'y rester enfermés. Ce qu'on connaissait peut-être pas il y a 10 ans.
Oui. Le CDI n'est plus du tout la norme, y compris pour les jeunes diplômés, ingénieurs.
Il n'est pas la norme des embauches, mais enfin, il reste la norme des gens qui sont embauchés, puisque 87% en 2011 des salariés étaient en CDI. Le problème, c'est qu'effectivement, les CDI durent beaucoup plus longtemps. En 82, ils étaient de 6 ans, alors qu'aujourd'hui, on reste en moyenne 10 ans dans un CDI. En fait, ce qui semble indiquer que grosso modo, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que comme il y a des contrats protégés, ceux qui l'occupent ont tendance à s'y accrocher et y rester, pendant que ceux qui vivent, qui sont dans la précarité, eux, n'arrivent pas à accéder au CDI.
Emploi.
Donc il y a un marché, il y a les insiders, les Américains appellent ça les insiders et les outsiders. Et donc d'où l'idée des libéraux de redistribuer tout ça, de battre à nouveau les cartes et de faire entrer les outsiders dans une fluidité plus importante du marché du travail.
On appelle ça aussi les winners et les losers, c'est ça, non?
C'est un peu ça, mais ce qui peut se traduire aussi par une baisse des salaires. Alors concernant l'étude, donc pour donner un petit exemple, donc on a parlé de la rotation de la manœuvre, hein, donc grosso modo la rotation de la manœuvre, vous avez qu'à aller voir par exemple les chiffres concernant les intermittents du spectacle ou même dans la construction, c'est mais à la limite, je dirais que les chiffres, par exemple, qu'on a dans la restauration sont un très bon indicateur parce que là, c'est le taux de rotation de l'emploi, vous le voyez, c'est-à-dire au nombre de personnes qui ont occupé le même emploi sur la dernière année, les deux dernières années. Et là, il y a vraiment une rotation qui est extrêmement importante. Donc, en 82, l'INSEE recensait en moyenne 38 actes d'embauche et de débauche pour 100 postes, pardon, excusez-moi, dans une entreprise. Aujourd'hui, elle en recense 177 pour 100 postes. Vous imaginez en moyenne. Hein. Donc, deux facteurs à l'origine de cette explosion. Donc, la multiplication des contrats temporaires, hein, essentiellement, donc les CD, mais l'intérim principalement, et leur raccourcissement en durée. Donc entre 82 et 2011, la part de ces contrats dans l'emploi a presque triplé, donc de 5% à 13%. Donc ça fait quand même 13% de la population qui, enfin de salariés, hein, qui est dans une situation de précarité. Pendant que leur durée était divisée par 3, de 3 à 1 mois. Voilà. Imaginez quand même que globalement, 13% de la population, en moyenne, se tape des contrats d'un mois. Sur la même période, les salariés...
Ça fait 3 millions de salariés. Hein.
Voilà, c'est énorme. Exactement, 10% sur à peu près 28 millions, oui, c'est ça. Sur la même période, les salariés en contrat à durée indéterminée, dont la part est restée largement majoritaire, donc comme je le disais, 87% en 2011, ont eu tendance à rester plus longtemps en poste, 10 ans en 2011, contre 6 ans. Tout ceci suggère que le fonctionnement du marché du travail se rapproche d'un modèle segmenté où les emplois stables et les emplois instables forment deux mondes séparés. J'ai oublié d'ouvrir et de fermer les guillemets, c'est une phrase directement tirée de l'étude. Les emplois instables jouent de moins en moins le rôle de tremplin vers l'emploi stable, c'est un fait nouveau, mais deviennent au contraire une trappe pour ceux qui les occupent, ça c'est toujours entre guillemets, a décrypté l'auteur de l'étude qui s'appelle Claude Picard dans une conférence de presse. Au début des années 80, la moitié des salariés en CDD, intérim ou stage étaient en CDI l'année suivante, la moitié, passer de CDD à un CDI. Aujourd'hui, à peine plus d'un cinquième suivent le même chemin. Même pas avant. Et l'auteur d'études pointe aussi du doigt ce qu'on appelle les CDD d'usage. Donc là, je renvoie toujours à la discussion qu'on a eue au début. Les CDD d'usage, c'est l'équivalent dans les services du CDD de chantier, c'est-à-dire, ils ont été créés en 90, ils permettent de conclure des contrats successifs avec un même salarié dans certains secteurs d'activité spécifiques, principaux concernés, les intermittents du spectacle, les journalistes et les salariés de l'hôtellerie-restauration. C'est le futur contrat de mission généralisé à tous les secteurs de M. Pergatta.
Les animateurs de Radio France aussi, entre autres.
Voilà, exactement. Ouais. Tout à, oui,
les animateurs Ville de Paris, par exemple.
Aussi, voilà. Bien sûr.
Et donc ça, il y a un recours, dit l'étude, extrêmement abusif de ce type de contrat. Les professions à CDD d'usage concernent près de la moitié des embauches en CDD. Vous imaginez?
50%. Oh la vache.
50% des embauches. Alors qu'elle ne représente qu'un dixième de l'emploi salarié. C'est-à-dire que sur le dixième d'emploi salarié, la moitié, aujourd'hui, c'est du turnover.
En veux-tu, en voilà.
L'exemple emblématique, évidemment, ce sont les professionnels des arts et du spectacle. Donc là, on a vraiment un bon niveau à travers les statistiques, hein, puisque effectivement, aujourd'hui, les contrats types se sont réduits à une semaine. Hein. Un tiers des salariés sont sur des contrats d'une semaine en moyenne. Il s'est observé également de fortes rotations de main-d'œuvre dans des services ayant beaucoup recours à l'intérim, comme évidemment la manutention. Depuis le 1er janvier 2013, le gouvernement a instauré une surtaxation de certains contrats courts afin de dissuader les employeurs d'y avoir recours, mais plus d'un an après, cette mesure n'a pas suffi à inverser la tendance. Et dernière chose qui est très pénible pour les jeunes, c'est, non, parce qu'on s'étonne que les jeunes votent Front National, donc, entre autres, hein, il y a aussi des jeunes qui ne votent pas. Je plaisante. Donc, mais du coup, voilà, l'âge facteur d'instabilité, autre facteur d'instabilité de l'emploi, plus un actif est jeune, plus il a de chances d'enchaîner les contrats courts. C'est une évidence aujourd'hui pour qui fréquente le marché du travail. Le taux de rotation qui mesure l'instabilité de l'emploi diminue brusquement après 25 ans. C'est-à-dire quand vous êtes trop jeune, bah on vous fait pas confiance. Mais les jeunes ne sont pas tous logés à la même enseigne selon leur niveau de diplôme. Ça aussi, c'est une évidence. Mais par exemple, parmi les actifs de 25 ans, l'instabilité reste plus forte chez les moins diplômés, malgré leur plus grande ancienneté sur le marché du travail, que chez les jeunes diplômés sans expérience. C'est-à-dire que si vous êtes très bien diplômé, vous risquez à terme vite de vous caser le plus vite possible. En 1982, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'en 82, on considérait que l'expérience valait quand même plus que le
diplôme, quoi.
Alors là, aujourd'hui, en période de crise, il y a une espèce de rigidité. De rigidification, en quelque sorte, de rigidité du marché du travail, qui veut qu'on favorise, en fait, celui qui a un parcours sans tâche, hein, d'une certaine façon, et qui est effectivement très qualifié. Voilà. Et donc, sans surprise, à l'autre bout de la pyramide des âges, l'instabilité a également progressé ces dernières années chez les seniors, notamment chez les 55 ans et plus, surtout après une perte d'emploi. Donc, pour rappel, conclut l'article, pour rappel, donc c'est l'AFP, hein, depuis le début de la crise financière en 2008, le nombre de seniors inscrits à Pôle emploi a plus que doublé. Voilà, donc, eh bien, si effectivement M. Gattaz parvient à faire passer son idée de contrat de mission, bien y en tienne, il faut espérer qu'ils n'auront plus 87% de CDI et 13% de CDD d'intérim, mais que l'intérim... aura un bond dans les statistiques et que tout le monde s'en portera mieux. Non, là, je déconne.
Mais là, on pourra aller éventuellement en Belgique, au Canada et puis en Finlande, dans des
où
pays
c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Sur un plan d'intérim,
ouais. Tout à fait. Oui. Là-dessus, on va écouter une petite chanson. Allez.
Pas une trace, s'en vont et reviennent les flots. Une éponge de mer efface un grand ciel vert. Comme un tableau, y a rien qui se passe.
Et oui, c'était Y a plus rien de Alain Leprest. Je ne vous dis plus qui c'est, parce que vous connaissez tous Alain Leprest, un des plus grands chanteurs de la chanson française actuelle, mais qui est bien sûr décédé depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, on prend cette émission, c'est 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Je suis toujours avec Claude à la technique, Ludo et Christophe au micro.
Bonsoir.
Rebonsoir.
Qui ont été ce soir particulièrement excellents dans leur... et moi-même, qui ai été, comme d'habitude, un animateur...
émérite.
Bon, voilà, émérite. Je suis un peu remis. Voilà.
C'est bien, donc, c'est fini ton cours de fleurs.
Voilà, ça va, ça va. Donc, on reprend cette émission. On va parler maintenant, bien sûr, des intermittents qui vont apparemment être à nouveau dans la rue. Alors, dis-moi un petit peu, Christophe.
Alors, d'abord, je ferai une intermittence parce que tes galéjades honorifiques cassent des choses que la modestie et le sourire m'empêchent de divulguer.
D'accord.
Alors, mais toujours est-il que de l'argent, il y en a pour construire de nouveaux bras. Donc, il s'agit d'un communiqué des intermittents du spectacle, dont je vais vous lire à peu près le contenu, parce que c'est assez intéressant quand même comme concept. Nous, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, ou avec ou sans papier, occupons ce jeudi 18 septembre 2014, jour de reprise des concertations de la mission Valls depuis 7 heures, le chantier de l'hôtel Lutetia au 45 boulevard Raspail, Paris 5e, métro Rennes et Sèvres au Bibonne. Alors, quelle est l'histoire de cet hôtel? En fait, cet hôtel de luxe a été vendu en 2010 au groupe Alrof, appartenant au milliardaire israélien Alfred Akirov, pour 135 millions d'euros. La gestion est restée aux mains du groupe Concord, hôtel et resort, lui-même filiale de la société privée de gestion immobilière Starwood Capital Group, qui gère plus de 9 milliards de biens immobiliers dans le monde. En gros, c'est comme un fonds de pension, mais spécialisé dans l'hôtellerie de luxe. Nous sommes ici dans une volonté déterminée de recourir au blocage économique pour rappeler que nous n'entrons pas à piétiner la casse des droits sociaux des chômeurs précaires, intermittents et intérimaires. Monsieur Rapsamed demande le renforcement du contrôle des chômeurs. Nous répondons qu'il fera mieux de contrôler les fraudes des employeurs sur le paiement des cotisations sociales qui coûtent plus de 20 milliards d'euros par an. Arrêtez de dire que les précaires sont responsables du déficit de la protection sociale, c'est un mensonge. Nous demandons l'abrogation de la nouvelle convention d'assurance chômage visant à faire des économies sur le dos des seuls chômeurs et précaires en les stigmatisant. Monsieur Valls offre un pacte de responsabilité aux entreprises pour favoriser la compétitivité et l'emploi, alors que ces dernières versent 30% de dividendes supplémentaires à leurs actionnaires au second trimestre 2014 et demandent par ailleurs à pouvoir embaucher en dessous du SMIC pour s'en sortir. Ce n'est plus de la provocation, c'est de l'indécence. Nous ne croyons pas en votre crise et nous ne voulons pas d'un plein emploi précaire. Nous exigeons que notre modèle de protection sociale accompagne la discontinuité de l'emploi, les contrats courts, l'intérim et qu'il soit discuté avec les premiers concernés. Monsieur Gattaz, des cas que notre modèle social a vécu, il n'est plus adapté. Nous lui répondons que c'est notre modèle de dialogue social qui est mort et qui n'est plus adapté. Une gestion paritaire de l'UNEDIC qui date de 1958. Oui, le monde a changé et c'est ce paritarisme-là qui n'est plus d'actualité. Pan sur la tête des syndicats, entre parenthèses. Il est scandaleux que les cotisations sociales par socialisées du revenu appartenant aux salariés soient gérées de manière mafieuse et qu'elles appartiennent au patronat d'en décider. Nous demandons la transparence des comptes de l'UNEDIC et exigeons que les chiffres bruts soient communiqués pour expertise. Monsieur Hollande, alors que l'INSEE vient de publier par son rapport présentant une instabilité, une précarisation croissante des conditions d'emploi, nous demandons que la question de l'assurance chômage devienne un débat national et que le modèle d'indemnisation soit repensé afin que 100% des chômeurs soient indemnisés. Nous avons des propositions et tant qu'elles ne seront pas entendues, nos actions ne connaîtront pas de pause. Nous appelons à une grève à l'ensemble des salariés avec ou sans emploi le 1er octobre 2014, jour de mise en application de l'ensemble des conventions d'assurance chômage. Donc c'était un collectif de chômeurs précaires, intermittents, intérimaires et sans papier qui occupe cet hôtel et qui réagit par rapport à la déclaration de M. Gattaz et le fait
Donc c'est le 1er octobre, mais c'est à quel endroit
Je n'ai pas vrai pour l'instant l'information.
En fait, le 1er octobre, c'est une grève, normalement, une grève générale.
Une grève générale.
Qui est des reprises du mouvement.
Alors, je souhaiterais préciser une chose, c'est que ça fait des décennies que les associations de chômeurs et précaires, et notamment ACE, entre autres,
bien sûr,
et aussi un ensemble de collectifs, demandent à ce qu'il y ait une représentation nettement plus démocratique dans les organisations sociales et le gâteau des acédiques et nudéliques.
Bien sûr. Merci de l'avoir dit, en tout cas, Christophe. Deux petits mots, peut-être, sur la souffrance au travail, Ludo.
Parce qu'il y a le résultat d'une enquête qui est sortie, donc qui date de 2010, donc qui est ancienne, et il y en a une prochaine qui doit sortir qui vient de l'INSEE. Alors, celle-là, c'est pas l'INSEE qui l'a fait. Elle ne concerne que la région d'Île-de-France. Et c'est 500 médecins qui ont enquêté 12 000 salariés, auprès d'un panel représentatif pour, parler des comportements hostiles et agressions au travail en Île-de-France. Donc, évidemment, c'est du ressenti, mais c'est un classement assez sérieux, puisque, grosso modo, ils essayent de hiérarchiser les atteintes, en fait, aux salariés. Alors, ça va, par exemple, du déni de reconnaissance, au comportement hostile, l'agression. Voilà, dans des situations très 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 différentes.
Le harcèlement moral et physique, etc.
Voilà. Et alors, sans parler de harcèlement, justement, mais c'est, donc les résultats en ressenti sont assez quand même flagrants, puisque un quart des salariés franciliens, donc 25%, déclarent être confrontés dans leur emploi actuel à au moins un comportement hostile. Donc, selon une définition établie par l'enquête, il s'agit le plus souvent de déni de reconnaissance et de comportements méprisants, c'est-à-dire faire comme si vous n'existiez pas ou couper la parole. Les auteurs les plus courants de comportements hostiles appartiennent à l'entreprise, donc c'est la hiérarchie et les collègues de travail. Les jeunes et les salariés de nationalité étrangère sont les plus concernés par les comportements hostiles et on pourrait dire, globalement, les gens qui sont les plus précaires, qui sont dans une situation d'instabilité. Donc les gens en CDD, les femmes, pourquoi les femmes? Les femmes, qui sont pas forcément...
Etc.
Voilà, donc c'est ce public-là, en fait, qui est le plus sujet à la fois aux moqueries, du fait de leur fragilité, en fait, dans l'entreprise, qui est le plus sujet aux moqueries, aux agressions, aux comportements dégradants. Voilà, donc les agents de la fonction publique hospitalière... Ou les agents à statut, alors par exemple les gens qui travaillent pour la SNCF, c'est ça les agents à statut, sont également, les employés du commerce et des services sont également plus exposés. Voilà, les salariés déclarant être confrontés à des comportements hostiles ont des contraintes organisationnelles plus fortes et un collectif de travail plus dégradé que les autres salariés. Et près de la moitié d'entre eux estiment que le travail a une influence néfaste sur la santé. Voilà, un salarié francilien sur 5 déclare avoir été confronté dans le cadre de son travail à une agression verbale au cours des 12 derniers mois et 2% à une agression physique. Mais ça, c'est plutôt les professions qui sont en contact avec le public. Donc oui, vous pouvez retrouver cette enquête donc sur le site de la préfecture de la région Île-de-France.
Très bien, merci à tous les deux. Merci à Claude pour la technique. Cette émission se termine. Merci, messieurs et dames, de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Je fais un gros bisou aux filles et puis à une poignée de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.
Soothe me with your caress. Lotus blossom, lotus blossom.